VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza, bienvenue à cette édition. Le président nigérien Muhammadu Buhari est arrivé mercredi au Cameroun où il devait s'entretenir avec son homologue camerounais Paul Biya de la lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram, Claire Morin-Gibourg.
Muhammadu Buhari a été chaudement accueilli aujourd'hui à Yaoundé. Sur les murs de la ville, des portraits géants du président nigérian et de nombreuses banderoles ont été accrochées pour souhaiter la bienvenue à Muhammadu Buhari. Certaines faisaient référence au Nigeria comme un allié sûr du Cameroun dans la guerre contre les islamistes. La lutte contre Boko Haram est au cœur des discussions. Le porte-parole de la présidence nigériane, Garba Shehu, a précisé que cette visite a pour but de construire une alliance régionale forte pour affronter Boko Haram. Les deux chefs d'État évoqueront également la force d'intervention conjointe multinationale dont le déploiement avait été annoncé d'ici au 30 juillet, mais qui semble prendre du retard. Cette force régionale a son siège à N'Djamena et doit compter 8700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin. La visite du chef d'État nigérian, qui doit durer 24 heures, a été placée sous haute sécurité alors que le nord du Cameroun a été frappé par 5 attentats suicides meurtriers sans précédent en 2 semaines.
Le président du Sénégal a rappelé lors d'une conférence sur l'islam et la paix que les auteurs des attaques et autres actes terroristes ne respectent pas les prescrits de celui qu'ils croient servir, suivant un extrait du discours de Macky Sall.
Ceux qui répandent la violence par leurs actes trahissent en vérité celui qu'ils prétendent servir. Car le commandement divin, tel que transmis successivement par la Torah, la Bible et le Coran, a toujours prôné le bien, prohibé le mal et exalté la fraternité humaine. L'islam se veut une religion du juste milieu et de la paix. Et cette quête de paix en islam va bien au-delà de la simple absence de guerre. La paix, selon l'islam, c'est aussi la justice sociale et la solidarité.
Le président sénégalais Macky Sall. Le Parlement nigérien a levé l'immunité d'un des dirigeants de l'opposition Bakary Seydou du Modem. Camille Gros-Didier a les détails.
Cette mesure ouvre la voie à son procès pour corruption, selon des sources judiciaires citées par l'agence Reuters. Un magistrat a déclaré que Bakary Seydou est soupçonné d'avoir détourné jusqu'à 6,5 milliards de francs CFA en 2005, alors qu'il travaillait pour le premier ministre de l'époque, Hama Amadou, aujourd'hui leader du Modem. Monsieur Seydou clame son innocence et dénonce une manœuvre politique pour le neutraliser. Cette décision a été annoncée après que la cour d'appel de Niamey ait estimé à la mi-juillet que le tribunal correctionnel était compétent pour instruire l'affaire de trafic de bébés au Niger, impliquant Hama Amadou et son épouse et une trentaine d'autres personnes. Monsieur Hama Amadou occupait jusqu'à récemment le poste de président du Parlement. S'il avait permis en 2011 l'élection de Mahamadou Issoufou au deuxième tour du scrutin présidentiel, on le considère aujourd'hui comme son principal rival à l'élection prévue en 2016.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, l'extorsion par les forces de sécurité au barrage routier reste un grand problème, constate Human Rights Watch. 4 ans après que le gouvernement du président Alassane Ouattara ait pris l'engagement d'y mettre fin, ce fléau persiste, déclare l'ONG de défense des droits humains. Ces barrages portent atteinte à la liberté de mouvement et aux droits de propriété des conducteurs et des résidents en Côte d'Ivoire, ajoute-t-elle dans un communiqué. Une enquête menée par Human Rights Watch à Abidjan aurait montré que l'extorsion a diminué dans la métropole et sur les grandes routes parcourues par les hommes d'affaires et investisseurs étrangers, mais reste généralisée sur les routes secondaires dans les zones rurales. Le chef d'état-major interarmes américain, le général Martin Dempsey, a prodigué hier quelques conseils à des diplomates et militaires des principaux pays contributeurs de troupes aux opérations de maintien de la paix à l'ONU. C'était lors d'une allocution à New York, Jacques Aristide.
Le général Martin Dempsey les a invités à pallier les importantes lacunes en équipement dont souffrent certaines missions en Afrique notamment et à mettre en place des forces de réaction rapide pour intervenir sur les conflits avant qu'ils ne deviennent ingérables. Ce département, dirigé par le français Hervé Latsou, a vu son importance grandir depuis quelques années, rapporte l'AFP. Mais sa tâche, en particulier en Afrique, Mali, République démocratique du Congo, Centrafrique, Soudan ou Soudan du Sud, est de plus en plus complexe et dangereuse. Et il est en butte aux critiques après la révélation d'abus sexuels commis par des casques bleus.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Une fenêtre sur le monde, actualité américaine. Un fameux espion israélien emprisonné aux États-Unis depuis 30 ans va recouvrer la liberté. Jonathan Pollard sera relâché au mois de novembre, ont annoncé ses avocats, cher Ubin Dorside.
Jonathan Pollard, un juif américain, fut pendant un temps analyste civil du renseignement pour la marine de guerre américaine, la US Navy. Mais un jour de novembre 1985, il est arrêté alors qu'il tente de se réfugier à l'ambassade d'Israël à Washington. Jugé et condamné d'avoir transféré des secrets militaires à l'État hébreu, il sera envoyé en prison à perpétuité. On n'a jamais vraiment su l'ampleur des activités d'espionnage de Pollard, mais un rapport de la CIA de 1987, déclassifié en 2012, précise qu'il avait livré des informations sur les pays arabes et l'Union soviétique. 30 ans durant, Washington a refusé de le libérer, et ce, en dépit des pressions du gouvernement israélien, qui s'est excusé en 1987, a accordé la citoyenneté israélienne à Pollard en 1995 et admis 3 ans plus tard qu'il avait émargé de son budget. Sa libération prévue le 21 novembre prochain est interprétée par certains observateurs américains comme un geste conciliant envers un allié qui ne décolère pas contre la signature de l'accord nucléaire du 14 juillet avec l'Iran. Mais ses avocats et le secrétaire d'État John Kerry démentent qu'il y ait un lien quelconque entre les deux événements. Selon les termes de sa libération, Jonathan Pollard devrait rester aux États-Unis pendant 5 ans, mais ses avocats disent qu'ils ont requis du président Barack Obama la permission pour leur client d'émigrer en Israël.
Le gouvernement afghan a confirmé mercredi enquêter sur des informations tangibles annonçant la mort du mullah Omar. Le chef suprême des talibans afghans est en fuite depuis la fin 2001. Selon les médias américains et britanniques, le leader taliban est bel et bien décédé. L'annonce de sa mort intervient quelques semaines après une première prise de contact officielle en vue de pourparlers de paix entre sa rébellion et le gouvernement de Kaboul, alors que le conflit se poursuit sur le terrain. Les talibans n'ont toutefois pas confirmé officiellement le décès de leur chef. L'ONG Amnesty International a dénoncé la décision du parquet russe de qualifier d'indésirable l'organisation américaine National Endowment for Democracy, NED, estimant qu'il s'agissait d'une attaque des autorités russes contre la société civile. Sans surprise, et là nous parlons du sport ou des sports, Michel Platini veut diriger le football mondial. Le Français se lance dans la course à la présidence de la FIFA. L'ancien joueur de 60 ans a officialisé sa décision dans une lettre aux 209 fédérations membres de la FIFA. « Il y a des moments où vous devez prendre votre destin en main. Je suis arrivé à l'un de ces moments décisifs », a écrit l'ancien triple ballon d'or, ajoutant « vouloir rendre à la FIFA sa dignité et la position qu'elle mérite. Empêtré dans un scandale de corruption, la FIFA élira le 26 février 2016 le successeur de Joseph Blatter et Platini, président de l'UEFA, est vu comme le grand favori. Cette candidature de Platini a été taclée, violemment attaquée par un autre candidat potentiel, le prince Ali bin Al-Hussein, qui a dénoncé la culture des arrangements en coulisses. C'est ici que prend fin ce journal sur VOA Afrique. Le prochain dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.